On exige d'un membre du parti non seulement qu'il ait des opinions convenables, mais des instincts convenables. Nombre des croyances et attitudes exigées de lui ne sont pas clairement spécifiées et ne pourraient être clairement spécifiées sans mettre à nu les contradictions inhérentes à Langsok. S'il est naturellement orthodoxe, en novlangue bien pensant, il saura en toutes circonstances, sans réfléchir, quelle croyance est la vraie, quelle émotion est désirable. Mais en tout cas, l'entraînement mental minutieux auquel il est soumis pendant son enfance, et qui tourne autour des mots novlangues « arrêt du crime »,« blanc-noir » et « double pensée », le rend incapable de réfléchir et de vouloir réfléchir trop profondément. On attend d'un membre du parti qu'il n'éprouve aucune émotion d'ordre privé et que son enthousiasme ne se relâche jamais. Il est censé vivre dans une continuelle frénésie de haine contre les ennemis étrangers et les traîtres de l'intérieur, de satisfaction triomphale pour les victoires, d'humilité devant la puissance et la sagesse du parti. Les mécontentements causés par la vie nue, insatisfaisante, sont délibérément canalisés et dissipés par des stratagèmes comme les 2 minutes de la haine. Les spéculations qui pourraient peut-être amener une attitude sceptique ou rebelle sont tuées d'avance par la discipline intérieure acquise dans sa jeunesse. La première et la plus simple phase de la discipline qui peut être enseignée, même à de jeunes enfants, s'appelle en novlangue « arrêt du crime ». L'arrêt du crime, c'est la faculté de s'arrêter net, comme par instinct, au seuil d'une pensée dangereuse. Il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies, de ne pas percevoir les erreurs de logique, de ne pas comprendre les arguments les plus simples, s'ils sont contre Langsok. Il comprend aussi le pouvoir d'éprouver de l'ennui ou du dégoût pour toute suite d'idées capables de mener dans une direction hérétique. Arrêt du crime, en résumé, signifie stupidité protectrice. Mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l'orthodoxie, dans son sens plein, exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux, aussi complet que celui d'un acrobate sur son corps. La société océanienne repose, en fin de compte, sur la croyance que Big Brother est omnipotent et le parti infaillible. Mais comme en réalité Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible, une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire. Le mot-clé ici est « noir-blanc ». Ce mot, comme beaucoup de mots novlangues, a 2 sens contradictoires. Appliqué à un adversaire, il désigne l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc, contrairement aux faits évidents. Appliqué à un membre du parti, il désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc quand la discipline du parti l'exige. Mais il désigne aussi l'aptitude à croire que le noir est blanc et plus à savoir que le noir est blanc et à oublier que l'on n'a jamais cru autre chose. Cette aptitude exige un continuel changement du passé, que rend possible le système mental qui réellement embrasse tout le reste et qui est connu en novlangue sous le nom de « double pensée ». Le changement du passé est nécessaire pour 2 raisons, dont l'une est subsidiaire et pour ainsi dire préventive. Le membre du parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé, exactement comme il doit être coupé d'avec les pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres, et qu'il pense que le niveau moyen du confort matériel s'élève constamment. Mais la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est, de loin, la nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exactes, que les discours statistiques et rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique. changer de décision ou même de politique est un aveu de faiblesse. Si, par exemple, l'Eurasia ou l'Estasia, peu importe lequel, est l'ennemi du jour, ce pays doit toujours avoir été l'ennemi. Et si les faits disent autre chose, les faits doivent être modifiés. Aussi, l'histoire est-elle continuellement réécrite. Cette falsification du passé au jour le jour, exécutée par le ministère de la Vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'Amour. La mutabilité du passé est le principe de base de l'Anksok. Les événements passés, prétend-on, n'ont pas d'existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes. Mais comme le parti a le contrôle complet de tous les documents et de l'esprit de ses membres, il s'ensuit que le passé est ce que le parti veut qu'il soit. Il s'ensuit aussi que le passé, bien que plastique, n'a jamais, en aucune circonstance particulière, été changé. Car, lorsqu'il a été recréé dans la forme exigée par le moment, cette nouvelle version, quelle qu'elle soit, est alors le passé, et aucun passé différent ne peut avoir jamais existé. Cela est encore vrai même lorsque, comme il arrive souvent, un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d'une année. Le parti est, à tous les instants, en possession de la vérité absolue. Et l'absolu ne peut avoir jamais été différent de ce qu'il est. Le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire. S'assurer que tous les documents s'accordent avec l'orthodoxie du moment n'est qu'un acte mécanique. Il est aussi nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de la manière désirée. Et s'il faut réajuster ses souvenirs ou altérer des documents, il est alors nécessaire d'oublier que l'on a agi ainsi. La manière de s'y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale. Elle est, en effet, étudiée par la majorité des membres du parti, et certainement par tous ceux qui sont intelligents aussi bien qu'orthodoxes. En novlangue, cela s'appelle double pensée. Mais la double pensée comprend aussi beaucoup de significations. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait, par conséquent, qu'il joue avec la réalité. Mais, par l'exercice de la double pensée, il se persuade que la réalité n'est pas violée. Le processus doit être conscient, autrement, il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante. Mais il doit être aussi inconscient. Sinon, il apporterait avec lui une impression de falsification et partant de culpabilité. La double pensée se place au cœur même de l'Anksok, puisque l'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente, tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable. Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement. Oublier tous les faits devenus gênants, puis, lorsque c'est nécessaire, les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile. Nier l'existence d'une réalité objective, alors qu'on tient compte de la réalité qu'on nie. Tout cela est d'une indispensable nécessité. Pour se servir même du mot double pensée, il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée, car employer le mot, c'est admettre que l'on modifie la réalité. Par un nouvel acte de double pensée, on efface cette connaissance, et ainsi de suite indéfiniment, avec le mensonge toujours en avance d'un bond sur la vérité. Enfin, c'est par le moyen de la double pensée que le parti a pu, et pour autant que nous le sachions pourra, pendant des milliers d'années, arrêter le cours de l'histoire. Toutes les oligarchies du passé ont perdu le pouvoir, soit parce qu'elles se sont ossifiées, soit parce que leur énergie a diminué. Ou bien elles deviennent stupides et arrogantes, n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances nouvelles et sont renversées, ou elles deviennent libérales et lâches, font des concessions alors qu'elles devraient employer la force et sont encore renversées. Elles tombent, donc, ou parce qu'elles sont conscientes, ou parce qu'elles sont inconscientes. L'œuvre du parti est d'avoir produit un système mental dans lequel les deux états peuvent coexister. La domination du parti n'aurait pu être rendue permanente sur aucune autre base intellectuelle. Pour diriger et continuer à diriger, il faut être capable de modifier le sens de la réalité. Le secret de la domination est d'allier la foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé. Il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventèrent et qui savent qu'elle est un vaste système de duperie mentale. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. Le fait que l'hystérie de guerre croît en intensité au fur et à mesure que l'on monte l'échelle sociale illustre ce qui précède. Ceux dont l'attitude en face de la guerre est la plus proche d'une attitude rationnelle sont les peuples sujets des territoires disputés. Pour ces peuples, la guerre est simplement une continuelle calamité qui, comme une vague de fond, va et vient en les balayant. Il leur est complètement indifférent de savoir de quel côté est le gagnant. Un changement de direction veut simplement dire pour eux le même travail qu'auparavant, pour de nouveaux maîtres qui les traiteront exactement comme les anciens. Les travailleurs légèrement plus favorisés que nous appelons les prolétaires ne sont que par intermittence conscients de la guerre. On peut, quand c'est nécessaire, exciter en eux une frénésie de crainte et de haine. Mais laissés à eux-mêmes, ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes que le pays est en guerre. C'est dans les rangs du parti, surtout du parti intérieur, que l'on trouve le véritable enthousiasme guerrier. Ce sont ceux qui la savent impossible qui croient le plus fermement à la conquête du monde. Cet enchaînement spécial des contraires, savoir et ignorance, cynisme et fanatisme, est un des principaux traits qui distinguent la société océanienne. L'idéologie officielle abonde en contradictions, même quand elles n'ont aucune raison pratique d'exister. Ainsi, le parti rejette et diffame tous les principes qui furent à l'origine du mouvement socialiste. Mais il prétend agir ainsi au nom du socialisme. Il prêche envers la classe ouvrière un mépris dont, depuis des siècles, il n'y a pas d'exemple. Mais il revêt ses membres d'un uniforme qui, à une époque, appartenait aux travailleurs manuels et qu'il a adopté pour cette raison. Il mine systématiquement la solidarité familiale, mais il baptise son chef d'un nom qui est un appel direct au sentiment de loyauté familiale. Les noms mêmes des quatre ministères qui nous dirigent font ressortir une sorte d'impudence dans le renversement délibéré des faits. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité des mensonges, celui de l'amour de la torture, celui de l'abondance de la famine. Ces contradictions ne sont pas accidentelles. Elles ne résultent pas non plus d'une hypocrisie ordinaire. Elles sont des exercices délibérés de double pensée. Ce n'est en effet qu'en conciliant des contraires que le pouvoir peut être indéfiniment retenu. L'ancien cycle ne pouvait être brisé d'aucune autre façon. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. Mais il y a une question que nous avons jusqu'ici presque ignorée. Pourquoi l'égalité humaine doit-elle être évitée? En supposant que le mécanisme du processus ait été exactement décrit, quel est le motif de cet effort considérable et précis pour figer l'histoire à un moment particulier? Nous atteignons ici au secret central. Comme nous l'avons vu, la mystique du parti et surtout du parti intérieur dépend de la double pensée. Mais c'est plus profondément que gît le motif originel, l'instinct jamais discuté qui conduisit d'abord à s'emparer du pouvoir, puis fit naître la double pensée, la police de la pensée, la guerre continuelle et tous les autres attirails nécessaires. Ce motif consiste en réalité... Winston prit conscience du silence, comme on prend conscience d'un nouveau son. Il lui semblait que Julia était immobile depuis un certain temps. Elle était couchée sur le côté, nue à partir de la taille, avec la joue levée dans sa main et une boucle sombre qui lui tombait sur les yeux. Sa poitrine s'élevait et retombait lentement et régulièrement. « Julia ?» Pas de réponse. « Julia, tu es réveillée ?» Pas de réponse. Elle dormait. Il ferma le livre, le posa avec précaution sur le sol, s'allongea et tira la couverture sur eux deux. Il n'avait pas encore, réfléchissait-il, appris le secret ultime. Il comprenait comment, il ne comprenait pas pourquoi. Le chapitre 1, comme le chapitre 3, ne lui avait rien dit qu'il ne connaissait pas. Il avait simplement systématisé les connaissances qu'il possédait déjà. Mais après l'avoir lu, il savait mieux qu'avant qu'il n'était pas fou. Le fait d'être une minorité, même une minuscule minorité, ne faisait pas de vous un fou. Il y avait la vérité et il y avait le mensonge. Et si vous vous accrochiez à la vérité, même contre le monde entier, vous n'étiez pas fou. Un rayon de soleil jaune couchant pénétra à l'intérieur, à travers la fenêtre, et tomba sur l'oreiller. Il ferma les yeux, le soleil sur son visage et le corps lisse de la jeune fille contre le sien lui donnèrent un sentiment de force, de somnolence et de confiance. Il était en sécurité, tout était bien. Il s'endormit en murmurant « La santé mentale n'est pas une statistique », avec le sentiment que cette remarque contenait une profonde sagesse. Lorsqu'il se réveilla, il avait la sensation d'avoir dormi longtemps. Mais un coup d'œil à la vieille horloge lui dit qu'il n'était que 23 heures. Il resta allongé, somnolent, pendant un moment. Puis les chants habituels montèrent de la cour. Ce n'est qu'un rêve sans espoir, il passa comme un jour d'avril, mais un regard et un mot, et les rêves qu'ils éveillent, tordent encore les fibres de mon cœur. Cette ritournelle semble avoir conservé sa popularité. On l'entendait encore partout. Elle avait survécu à la chanson de la haine. Julia se réveilla au bruit, s'étira voluptueusement et sortit du lit. « J'ai faim, » dit-elle. « Faisons un peu plus de café. »« Merde !» Le fourneau s'est éteint et l'eau est froide. Elle prit le fourneau et le secoua. Il n'y a plus de pétrole dedans. On peut en avoir du vieux Charrington, je suppose. Le plus drôle, c'est que je me suis assuré qu'il était plein. Je vais m'habiller, a-t-elle ajouté. Il me semble qu'il fait plus froid. Winston s'est également levé et s'est habillé. La voix infatigable continua à chanter. On dit que le temps apaise toute douleur, on dit que tout peut s'oublier. Mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. Alors qu'il attachait la ceinture de sa salopette, il alla à la fenêtre. Le soleil avait dû se coucher derrière les maisons. Il ne brillait plus dans la cour. Les pavés étaient mouillés comme s'ils venaient d'être lavés, et il avait l'impression que le ciel, lui aussi, avait été lavé tant le bleu entre les cheminées était frais et pâle.